Bonjour à tous, bienvenue dans 7 jours dans le monde. Retour sur l'actu internationale de la semaine qui nous emmènera à Berlin, bien sûr, endeuillé après le carnage sur le marché de Noël. Alep, la ville complètement reprise par l'armée syrienne. Moscou, vainqueur en Syrie, mais défait justement par la mort de son ambassadeur à Ankara. Et puis Kinshasa en RDC, Banjul en Gambie. Vous le verrez donc, le processus démocratique a parfois du mal en Afrique avec des transitions difficiles. C'est parti pour 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et pour la dernière de 2016, voici Eduardo Cué qui est avec nous. Bonjour Eduardo.
Bonjour Fabrice.
Chroniqueur international, journaliste américain, Vincent Hugeux est également avec nous. Bonjour Vincent.
Bonjour Fabrice.
Grand reporter à l'Express. Allez, si par hasard il vous reste encore quelques cadeaux à faire, je ne sais pas. Hein. Reine d'Afrique, le roman vrai des Premières Dames, hein. Réédition en livre de poche, bien pratique. Tiens, on parlera de l'Afrique, je vous le disais il y a quelques instants, d'ici une vingtaine de minutes après la pause. À la une donc, eh bien, le terrorisme islamiste, hein, qui frappe, qui menace, hein. Berlin-Ouest, lundi soir, un camion fonce sur le marché de Noël, 12 morts, une quarantaine de blessés. Le suspect de l'attentat, il a été abattu vendredi matin par la police à Milan. C'était un Tunisien détenteur de plusieurs passeports. Apparemment, il s'était radicalisé dans une prison italienne il y a quelques années. Il était signalé comme dangereux à son arrivée en Allemagne, soupçonné de terrorisme là-bas sur le territoire allemand, identifié comme tel par plusieurs services de renseignement étrangers, mais laissé en liberté et jamais expulsé. Alors cet attentat, évidemment, elle pose plusieurs questions, hein. Les frontières Schengen, bien sûr, et puis la chancelière fédérale, bien sûr. Les ratés de ces services antiterroristes, bah, peut-être, on verra ce qui s'est passé aussi en France. Hein. Les retards dans la traque, sa politique migratoire montrée du doigt, même si à proprement parler, l'individu n'était pas arrivé dans le flot des migrants, donc, entre 2015 et 2016, venus d'Irak, venus de Syrie. Est-ce qu'Angela Merkel était affaiblie, Vincent Hugeux? Est-ce que c'est toujours Mouti, la protectrice?
Disons que, dans un premier temps, elle est objectivement fragilisée. Même si ce qu'elle paye, c'est aussi des dysfonctionnements qui sont inhérents à la structure fédérale. Regardez, vous avez des experts allemands aujourd'hui qui s'interrogent justement sur ce que certains appellent une erreur systémique de l'antiterrorisme germanique. C'est-à-dire que vous avez une dilution, une fragmentation des responsabilités dans un système de nature fédérale. Vous n'avez pas cette culture, je dirais, jacobine et centralisatrice.
Française,
ça ne veut pas dire d'ailleurs que ça nous exonère nous-mêmes de griefs quant à des erreurs techniques. Mais c'est vrai qu'il y a toute une série de dysfonctionnements que vous venez d'évoquer très brièvement. Mais par exemple, le suspect en question, Anis Amri, a une trentaine d'heures pour fuir avant que le lien soit établi jusqu'à un avis de recherche entre des documents d'identité retrouvés dans le camion bélier et le début d'une traque effective. Mais notons également que il y a dans l'argumentaire, notamment de l'extrême droite, appelons-la ainsi, allemande, je pense bien sûr à Alternative für Deutschland, AfD, quelque chose d'inepte et au fond de politiquement assez obscène. C'est-à-dire que l'expression qui a été reprise par les cadres de ce parti, c'est « ce sont les morts de Merkel », en désignant les victimes du marché de Noël de Berlin. Et évidemment, en imputant cette tragédie à une politique migratoire réputée trop généreuse, 900 000 en 2015, 300 000 au moins en 2016. Mais si cela était vrai, les Français qui ont accueilli grosso modo 100 fois moins de migrants que les Allemands, ils auraient été moins frappés. Or, ils l'ont été bien davantage. Il ne suffit, à propos du modus operandi choisi, que de rappeler le 14 juillet à Nice, et avec ses 86 morts. Donc voilà, je crois en la sagesse des nations et des peuples, et j'ai l'impression, c'est ce que me disent en tout cas des amis allemands, que cette rhétorique-là ne prend pas massivement. Elle prend dans certains secteurs de la société, mais que cela, à hauteur de septembre 2017, qui est l'échéance pour Angela Merkel, c'est là qu'elle va briguer un quatrième mandat chancelière, puisse compromettre ses chances, honnêtement, je ne le crois pas.
Alors, est-ce que l'Allemagne a tardé en prenant trop tardivement conscience qu'il y avait des foyers salafistes, des foyers terroristes sur son territoire, notamment dans l'ouest du pays, hein, en Rhénanie-du-Nord, notamment? Tiens, voilà ce que disait Angela Merkel, c'était jeudi.
Ça bénit.
L'état de droit a été respecté et j'ai donc confiance que nous pourrons défendre notre mode de vie libre et que nous pourrons continuer à vivre ensemble. Je dois dire que c'est pour moi un motif de fierté de constater comment la plupart de mes concitoyens ont réagi de manière réfléchie et pondérée.
Voilà, Angela Merkel, la chancelière fédérale, donc est intervenue plusieurs fois cette semaine. Il faut dire quand même il y a 800 Allemands qui sont partis combattre dans les rangs de Daesh. Daesh qui combat maintenant, puisque l'attentat a été revendiqué par l'État islamique qui combat l'Allemagne, qui est engagée également contre eux, donc sur le territoire irakien au travers de conseillers militaires. Est-ce que les temps ont changé à votre avis en Allemagne, Eduardo Cuy? Est-ce que c'est la fin d'une sorte d'insouciance?
Je pense que c'est le cas, effectivement. Je suis quand même un peu étonné d'avoir appris cette semaine que les Allemands se trouvaient tellement à l'abri du terrorisme. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut rappeler une chose à Fabrice Landi, que vous savez, l'attaque qui a eu lieu donc dans un marché de Noël, c'est hautement symbolique en Allemagne. Je ne sais pas si on se rend compte en France. Vous savez que les racines chrétiennes de l'Allemagne sont inscrites dans la constitution allemande, contrairement à la France. Et puis, il y avait l'église du souvenir, un lieu symbolique de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, tout ça a profondément choqué les Allemands. Est-ce que, maintenant, ils vont se tourner vers plus...
De sécurité.
De sécurité, de s'impliquer un peu plus à l'étranger qu'ils ne l'ont fait jusqu'à maintenant, etc. C'est possible, mais c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire. Moi, un petit mot, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Vincent. Je trouve que Angela Merkel est affaiblie, et peut-être pas mal affaiblie. On verra, l'élection elle est loin, mais on verra ce qui se passe d'ici là aussi. Mais cette histoire cette idée que ce sont les immigrants, même si c'est faux, cette immigration massive qui est à l'origine de tous ces attentats, c'est une idée qui peut-être fera son chemin.
Vincent, est-ce que l'Allemagne peut adopter un système à la française avec état d'urgence, vigipirate, des soldats dans les rues?
C'est une vraie difficulté qui, d'une certaine manière, nous renvoie à une inhibition culturelle et historique. C'est-à-dire cette idée, par exemple, d'un état d'urgence qui jette dans les rues des patrouilles d'hommes en armes, c'est aujourd'hui quasiment incompatible avec la culture dominante allemande. Et ceci renvoie bien entendu aux épisodes tragiques de l'histoire du XXe siècle. Alors, est-ce que l'imminence maintenant d'un péril permanent, puisqu'on peut effectivement juger qu'il y avait d'une certaine manière l'angélisme d'Angela, sans jeu de mots, est-ce que ça va bousculer les lignes culturelles et sociétales à ce point, je crois que c'est pas simple. Et vous avez d'ailleurs, c'est intéressant, dans l'intelligentsia allemande d'aujourd'hui, des voix qui s'élèvent d'ailleurs en disant « Attention, pas de fuite en avant sécuritaire, gardons ». Le maire de Berlin, qui quand même, au surlendemain de ce drame, dit « Attention, Berlin est une ville ouverte au sens noble du terme, ne nous refermons pas, ne nous crispons pas ». Donc là, il va y avoir effectivement une tension entre ces deux tendances, celle que Eduardo évoquait à l'instant, et une sorte d'invariant de la conscience collective allemande qui se refuse, parfois alors peut-être à se plier à l'impératif du réel, mais aussi à s'engager dans une fuite en avant de cette nature.
L'individu qui a été tué à Milan, c'était un Tunisien. Juste un mot, puisque vous connaissez bien les pays d'Afrique. La Tunisie, principal pourvoyeur de terroristes à la solde de Daesh, plus de 5000 qui sont partis combattre en Libye, en Irak, en Syrie. Pourquoi la Tunisie spécialement, Vincent?
Alors, la Tunisie, dont on se souvient aussi qu'elle a été, d'une certaine manière, le pays pionnier dans les printemps arabes, c'est aussi un pays qui a toujours été travaillé par un islamisme radical et avec une population qui bouge beaucoup, qui voyage beaucoup. Songez quand même que un des dysfonctionnements évoqués, c'est que, en réalité, Anis Amri est donc débouté du droit d'asile. Il est demandeur après un séjour dans les prisons italiennes que vous rappeliez tout à l'heure. Et ensuite, le même Anis Amri, ayant été débouté, se retrouve donc en Allemagne et il est quelqu'un que les Tunisiens eux-mêmes refusent, après son expulsion, d'accueillir, au prétexte qu'il n'existe pas de documents inéluctablement établis sur ce... Et l'ironie terrible de l'histoire, c'est que d'après une source allemande, le document qui est une sorte de substitut du passeport, document de transit, qui devait permettre son transfert effectif de l'Allemagne à Tunis, est arrivé en Allemagne le surlendemain de la tragédie.
Quel ratage, oui. Bon, on parlait des soldats français dans les rues, hein, il y en a 7000 hein, depuis les attentats de 2015. Et dans ce contexte, eh bien, le général de Villiers, qui est le chef d'état-major des armées, c'est-à-dire le général le plus étoilé de France, hein, était de toutes les armées, il a pris la plume dans les Échos, justement. Alors, c'était avant la tragédie de Berlin. Et il dit, voilà, la menace, elle est partout. On ne peut plus reculer, justement. Il faut qu'on ait davantage de moyens pour la défense. Le prix de la paix, c'est l'effort de guerre. Il dit, voilà, il faut consacrer rapidement 2% du PIB à la défense, versus actuellement un petit peu moins de 1,8%. Est-ce que la France peut faire davantage? Parce qu'actuellement, ce qu'il met en avant, hein, c'est le matériel qui s'épuise, l'usure des matériels, l'usure des troupes également. On parle de surchauffe. Eduardo Cué, Vincent Hugeux.
Mais moi, je pense que la France n'a pas trop les choix. Une statistique qui m'a beaucoup frappé dans ce qu'a dit le général Pierre de Villiers, c'est que seulement 38% des hélicoptères sont en état de vol.
Exactement.
38%. Mmh. C'est vrai que depuis quelques années, la France a fait des efforts extraordinaires au Mali, en République centrale africaine, etc. Elle était prête à aller en Syrie. Mais maintenant, les sommes sont épuisées et on paye un peu les prix de la politique à la fois des Sarkozy et puis d'Hollande au début du mandat, où ils sont à couper les budgets des armées. Et donc, je pense que dans l'état actuel des choses, la France n'a pas beaucoup de choix. Il faut une autre chose, avec Trump, qui arrive à la Maison-Blanche, qui dit qu'il faut que les Européens payent plus pour leur défense, ça aussi va mettre la pression en France et ailleurs en Europe.
C'est-à-dire le 2% du PIB, c'est une règle qui a été fixée par les pays de l'OTAN à échéance 2025, mais le général de Villiers voudrait que ça soit plus tôt. Vous les voyez sur le terrain. Lorsque vous allez pour l'Express, par exemple, avec la force Barkhane, vous voyez l'état du matériel? C'est autant déplorable qu'on le décrit?
Écoutez, c'est précisément ce à quoi je pensais. L'an dernier, je suis allé travailler dans la zone de Madama, extrême nord du Niger, 80 km de la frontière libyenne, poste avancé de ce fameux dispositif sahélien Barkhane. J'ai discuté avec les militaires. Et pour ne prendre qu'un exemple, on évoquait les hélicoptères à l'instant. Grosso modo, 1 sur 3 en état de décoller instantanément. Et on m'expliquait que les difficultés inhérentes à l'ère saharo-sahélienne, c'est-à-dire chaleur extrême et des vents de sable, mais un sable fin, poussiéreux comme de la farine, évidemment, c'est, je reprends le thème d'un officier de l'époque, c'est un crash test perpétuel. Donc, un pilote d'hélicoptère me racontait aussi, dans la même séquence, que 1 heure de vol, c'est entre 5 et 10 heures de maintenance dans des conditions extrêmes. Alors, je sais bien qu'il y a une sorte de scepticisme parfois. On dit, oui, les gradés, pour cela, les galonnés, ils sont très doués. Ils prennent appui sur une crise pour obtenir un rallonge budgétaire. Mais quand on voit l'intensité de l'effort à la fois intérieur, ne l'oublions pas, avec l'opération Sentinelle maintenue, prolongée, et la difficulté, je dirais, logistique et technique des théâtres extérieurs. Alors certes, il y a eu un désengagement en République centrafricaine, mais ça reste évidemment primordial au Sahel. Je crois que honnêtement, l'argumentaire est difficilement critiquable en ce sens. On a senti que François Hollande était piqué au vif. Parce qu'on ne peut pas dire que la haute hiérarchie militaire française est beaucoup à se plaindre de ce mandat. Oui, parce qu'il dit, lui, il y a suffisamment de moyens.
On a fait suffisamment. Mais en fait, ce que le général de Villiers vise, c'est la suite, hein, évidemment.
Oui,
c'est le successeur de Hollande, quel qu'il soit. Hein.
Exactement, parce qu'en réalité, les fameux 2%, ce qui correspondrait à 40 milliards d'euros au regard du budget français, c'était déjà la visée 2025 dans une logique OTAN.
Mmh.
Bon, lui veut effectivement accélérer à cadence, ce qui est une thématique militaire. Et puis, il est évident que flotte au-dessus de tout ça l'idée du désengagement américain vis-à-vis de l'OTAN, qui ne date pas d'ailleurs de la campagne de Donald Trump, hein, puisque le fameux burden sharing qu'on a déjà évoqué ici était une thématique récurrente des mandats précédents. Donc, je veux dire que on peut difficilement faire au général de Villiers le procès d'une manœuvre de nature politique. D'ailleurs, s'il a choisi une tribune dans les Échos et non pas un Écho dans la tribune, c'est qu'il voulait être factuel et raisonner sur des données budgétaires observables.
La guerre, on y revient, concrète, hein, violente, barbare. Alep, bien sûr, hein, on ne cesse d'en parler dans 7 jours dans le monde sur BFM Business. C'est officiel depuis jeudi, l'armée syrienne a repris la totalité de la ville, annonce faite par un général syrien à la télévision d'État.
Grâce au sang de nos martyrs et au sacrifice de nos valeureuses forces armées, ainsi qu'aux forces supplétives et alliées, Le commandement général des forces armées annonce le retour de la sécurité à Alep après sa libération du terrorisme et des terroristes et la sortie de ceux qui restaient.
Avec aussitôt des tirs de célébration dans la partie ouest de la ville d'Alep. Et puis un groupe islamiste rebelle, lui, répliquait « Alep est maintenant sous l'occupation de la Russie et de l'Iran ». Alors, c'est vrai, l'un et l'autre, hein, Eduardo, Vincent, dites-moi, lors de l'évacuation des rebelles de Alep, on les a vus à la télévision, il y avait des soldats russes qui étaient là, qui encadraient donc tous les autocars dans lesquels se trouvaient les rebelles ou certains civils. Hein. Vincent.
Hein. Ce général célèbre une victoire qui n'est pas la sienne. Ouais. Souvenons-nous qu'à l'été 2015, le régime de Bachar al-Assad contrôle grosso modo 22% du territoire syrien. Le Grand Damas est encore, avec certains faubourgs rebelles, et la frange littorale jusqu'à l'Attaquié, fief historique de la minorité alaouite. Sans l'intervention, certes des Russes, intensifiée à partir de septembre, octobre, novembre, mais aussi des Iraniens, eh bien ce régime serait tombé. Il doit cette victoire, hein, mort ou état victoire, comme clamait Bossuet, il la doit en fait aux Iraniens, mais pas seulement aux conseillers, aussi à des milices qui ont été encadrées, financées, armées par les gardiens de la révolution venus de Téhéran. Il la doit à d'autres supplétifs, des milices chiites irakiennes, dont on parle peu, des Pakistanais, des Afghans et 5000 Tchétchènes envoyés par l'excellent Ramzan Kadyrov, le maître de Grozny, pro-Poutine, comme on le sait. Donc, vous avez aujourd'hui une situation où, effectivement, on peut considérer que c'est la plus grande victoire du régime, sans être la sienne. Mais ceux qui croient que la chute d'Alep met un terme au conflit syrien s'enfoncent le doigt profondément dans l'œil.
Edouard, donc, c'est tout juste Poutine proclamant la reprise d'Alep est un pas très important. Oui, c'est pas la fin de la guerre, bien entendu.
Non, c'est pas la fin de la guerre. Je suis bien d'accord avec Vincent que c'est une victoire pour Poutine, mais c'est aussi, peut-être surtout, une victoire pour l'Iran. Maintenant, les problèmes, je pense qu'il y aura, c'est que la Turquie, l'Iran, la Russie, il y a des divergences entre eux aussi pour régler cette situation.
Il y a des divergences parce que, en effet, Russie et Iran, eux, militent pour le maintien de Bachar al-Assad. Les Turcs, dont on parlera largement à propos de la mort de l'ambassadeur russe à Ankara, les Turcs, eux, militent contre Bachar al-Assad et soutenaient les rebelles. N'empêche que ces trois amis, maintenant, nouveaux amis, Russie, Iran, Turquie, quelque part, règlent à eux trois la question syrienne sans les Américains, sans les Européens.
Absolument, mais la Turquie, il faut dire qu'il a toujours voulu à se débarrasser de Bachar al-Assad, c'est dit, maintenant, il ne le dit plus en contrepartie parce que la Russie a laissé la Turquie entrer dans le nord de la Syrie pour établir une zone là et se battre contre les Kurdes.
Avec des combats très violents aussi contre l'État islamique, avec des soldats turcs dans le nord-ouest de la Syrie.
Hein. Voilà. Donc maintenant, pour regarder l'avenir, ce qui va se passer, il paraît que Moscou veut une espèce de gouvernement de coalition, toujours avec Bachar al-Assad à sa tête, et que, évidemment, Bachar al-Assad ne veut pas ça, mais il n'a pas le pouvoir, il n'a pas la force pour s'y opposer. Mais ce qui est vrai, c'est que maintenant, ce qui est étonnant, c'est qu'on voit, donc on voit la Turquie, l'Iran, la Russie, et qui n'est pas là, les États-Unis, complètement absent.
C'est la première fois, ça.
C'est la première fois depuis les chutes du mur, c'est sûr. Et peut-être la première fois, peut-être depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où les États-Unis ne font pas partie
d'une table ronde,
négociation d'une crise majeure.
Vincent Hugeux de l'Express.
Mérite qu'on s'y arrête 30 secondes. Vous avez une réunion qui se passe à Moscou pour précisément orchestrer l'évacuation de 34 000 civils et rebelles de Alep Est.
C'est mardi.
Cette réunion met en présence la Russie, bien sûr, hôte de la réunion en question. Vous avez la Turquie et vous avez l'Iran. Donc, comme vous l'avez souligné, ni Union européenne, ni États-Unis. Bon. Et il y a derrière ça un pacte étrange et assez paradoxal entre Ankara et Moscou. Souvenons-nous quand même qu'on vient de très loin. En novembre 2015, vous avez l'armée turque qui abat un appareil russe à l'aplomb de la frontière syrienne. Bien. Échange de gracieuseté intense. Hein. Poutine parle quand même d'un coup de poignard dans le dos. Et il faut attendre août 2016 pour qu'au prix d'une visite de Recep Tayyip Erdogan à Moscou et de ses regrets officiels. Et là, aujourd'hui, on est dans une sorte de pacte où, comme l'a dit d'ailleurs un diplomate turc, vous connaissez la formule, we agree to disagree, nous sommes d'accord pour ne pas être d'accord, mais on peut très bien se partager le devenir hypothétique de la Syrie sans tenir compte de l'Occident.
Et c'est dans ce contexte justement que lundi après-midi, le même jour que la tuerie de Berlin était assassinée à Ankara, l'ambassadeur russe en Turquie, il y avait un hommage national jeudi à Moscou avec tous les dirigeants du pays. Tiens, Vladimir Poutine, il y voyait clairement une manœuvre.
Le crime commis est indubitablement une provocation visant à nuire aux liens entre la Russie et la Turquie et aussi au processus de paix en Syrie, activement soutenu par la Russie et la Turquie. Il n'y a qu'une seule réponse, le renforcement de la lutte contre le terrorisme.
Qu'est-ce que ça va changer, justement, cet assassinat dans les relations entre la Turquie et la Russie? Parce qu'on voit que la Russie et la Turquie jouent l'apaisement. On voit qu'il y a des enquêteurs russes qui sont acceptés par les Turcs sur le territoire turc, justement. Édouard Ocu. Bon,
honnêtement, je ne pense pas que ça change grand-chose. C'est un incident, c'est un événement, mais peut-être que ça va même renforcer les liens entre Ankara et Moscou. Bon, c'est dommage, mais ce n'est pas quelque chose qui peut changer des décisions stratégiques ou politiques.
C'est gravissime quand même ce qui s'est passé, Vincent Hugeux.
Il s'agit quand même d'un policier d'une unité d'élite, jeune, de 22 ans, mais qui, depuis la tentative de putsch avorté de juillet 2015 à Istanbul...
De juillet 2016,
a été amené à 8 reprises à faire partie du dispositif de protection rapprochée du président Erdogan. Au passage, pour Erdogan, ce rapprochement, et je partage totalement l'analyse d'Eduardo là-dessous, je pense que non seulement ça ne va pas recréer un psychodrame entre les deux capitales, mais ça va conduire à intensifier leur coopération.
Les Russes vont pouvoir peut-être en profiter pour exiger davantage de la Turquie, quelque part. Les Turcs vont être un peu plus les obligés des Russes.
Bien entendu, et puis en même temps, c'est de bonne politique, sinon de bonne guerre. Moscou ferme les yeux sur les opérations anti-kurdes de la Syrie...
De la Turquie
à la frontière syrienne et en échange. Voilà. Mais si vous voulez, il y a deux obstacles quand même, deux écueils pour Erdogan. D'abord, cette forme de soumission implicite à des diktats russes. Et puis, en termes de politique intérieure, vous avez vu qu'à nouveau, il a dégainé l'obsession guléniste, puisqu'il a en fait lié cet assassinat au fait que le policier en question serait un des adeptes
de ce prédicateur Gulen, exilé aux États-Unis. On voit partout que le pouvoir avait vu aux mains du coup d'État manqué du mois de juillet, aux mains également de l'appareil, de l'avion de chasse qui avait descendu les Russes il y a un an.
S'il fallait mettre en cabane tous les Turcs qui ont chez eux un ouvrage lié à la nébuleuse guléniste ou qui sont passés par un institut d'enseignement, ce serait la moitié du pays qui serait. Puis une autre difficulté, très brièvement, c'est qu'il y a un vrai hiatus entre donc ce discours, je dirais, russophile et cette attitude de Erdogan et la base électorale de l'AKP, son parti, le parti Justice et Développement. Parce que quand vous discutez avec un électeur de base de Erdogan, il ne supporte pas cette ingérence russe dans le devenir de la Russie. Et ça, il est clair que Erdogan devra tenir compte, notamment lors des prochaines échéances électorales, de ce décalage.
Il tient plus du tout son pays, Erdogan. Les attentats à répétition revendiqués par les Kurdes contre les policiers, les soldats, l'assassinat de l'ambassadeur russe à Ankara, Edouard Ocu, un mot et puis on va se retrouver.
Je ne sais pas s'il ne tient pas du tout son pays, mais ce que je trouve qui est très important, c'est que l'histoire de la Syrie, cet accord maintenant avec l'Iran et Moscou, et puis l'assassinat de l'ambassadeur russe, a fait que la Turquie a véritablement tourné le dos à l'Union européenne et à l'OTAN et aux États-Unis. Depuis des années de frustration, ils voulaient entrer dans l'Union européenne, ils n'ont jamais fait, etc. Maintenant, je pense qu'Erdogan a choisi son camp.
7 jours dans le monde, on va se retrouver dans un instant avec Edouard Ocué, chroniqueur international, avec Vincent Hugeux, grand reporter à l'Express, qui connaissent l'un et l'autre très très bien le continent africain. Oui, processus démocratique plus ou moins heureux, blocage en RDC, en Gambie également. Ça va un peu mieux par exemple aussi au Ghana. On va s'intéresser à l'Afrique dans un instant, dans 7 jours dans le monde. Restez avec nous sur BFM Business.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
7 jours dans le monde pour revenir évidemment, comme on le fait toutes les semaines, sur BFM Business, à la télé et à la radio, sur l'actu internationale de la semaine. Toujours avec nous, il y a Eduardo Cué, qui est chroniqueur international, et puis le grand reporter de l'Express, Vincent Hugeux, qui vous propose encore Reine d'Afrique, le roman vrai des Premières Dames, en livre de poche. Oh, il y aura d'autres livres, hein. Il écrit beaucoup également, pas uniquement dans les colonnes de l'Express, et puis sur son blog également, L'Afrique en phrase, c'est ça? Oui. Toujours, voilà. Vous connaissez tous les deux bien l'Afrique, hein. Je sais, Eduardo Cué, qui est reporter également, il va souvent également. Alors je le disais donc, on va y revenir dans un instant sur ce processus démocratique, pas toujours réussi, mais allez, sur le continent africain... Il y a une bonne nouvelle quand même. Il y a une bonne nouvelle depuis cette semaine. J'aurais qu'on démarre avec ça. Ça change, hein. Un premier vaccin, dit-on, jusqu'à 100% efficace contre Ebola. C'est l'OMS qui le dit, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui parle de ce vaccin mis au point au Canada. Il a été testé sur 6000 Guinéens l'an dernier et apparemment aucun nouveau cas. Vous en souvenez, la Guinée, comme le Libéria, comme la Sierra Leone, qui avait été éprouvée par le passage d'Ebola il y a 2 ans. Il y avait eu quand même 11 000 morts. Vincent Hugeux, j'en parle parce que ce type d'épidémie, ça faiblit, ça paralyse des pays à l'économie déjà parfois un petit peu chancelante et là complètement à l'arrêt.
Les enjeux de santé publique sont cruciaux. On évoque Ebola, on y revient tout de suite. Mais songez au sida, songez au paludisme. Le paludisme qui apparaît inscrit dans l'écran radar de l'Afrique comme une sorte de malédiction éternelle, sur lequel d'ailleurs des travaux continue d'être conduit, et on va sans doute arriver un jour, il y a des tests en ce moment qui sont faits, à aussi une formule vaccinale. Mais le paludisme qui tue davantage que le sida en Afrique. Alors, 11 300 morts, j'étais en Guinée-Conakry au pic de cette épidémie-là, mais plus de 30 000 personnes affectées. Bon. Ebola, ça n'était pas une nouveauté dans le paysage africain. La première éclosion, 1976, dans l'ancien Zaïre. Simplement, jusqu'alors, des communautés très refermées, très enclavées. Donc, il n'y avait pas cette circulation...
agricole, c'était...
Voilà, qui a conduit avec le commerce, avec la parenté, etc. Sierra Leone, Libéria, Guinée...
A touché les grandes villes.
Infectées. Et puis, il faut dire aussi que l'industrie pharmaceutique, qui ne brille pas toujours par son altruisme, avait jusqu'alors que, en quelque sorte, en termes d'économie d'échelle, le jeu n'en valait pas la chandelle. Là, les choses ont bougé, ont changé de manière significative. Et donc, oui, c'est une excellente nouvelle. Alors, il y a encore des tests, la revue Lancet va donner dans quelques jours les conclusions des essais cliniques qui ont été faits, et d'ailleurs faits en Basse-Guinée, qui était la région la plus affectée et infectée.
Guinée forestière, c'est ça.
Exactement. Bon, donc voilà, c'est une bonne nouvelle, mais à condition que ce ne soit pas simplement un coup d'éclat. Il faut qu'il y ait une persistance, une permanence dans les efforts de santé publique pour éviter, comme vous le disiez, que les efforts, si chaotiques soient-ils, en termes de rationalisation économique, de diversification, notamment dans les pays pétroliers, viennent se heurter à ce qui, en fait, anémie la force de travail et la main-d'œuvre.
Oui, la force de travail, de Rdokué, c'est vrai que tant qu'il y avait Ebola dans ces trois pays dont on a parlé, les activités minières étaient arrêtées, activités agricoles, il n'y avait plus d'avions également, bien entendu, donc plus de commerce, plus de transport, les prix flambaient dans les villes.
Et tout s'est arrêté complètement, et puis dans des pays comme le Libéria, qui se mettait avec beaucoup de peine d'une guerre civile sans fin, puis l'Ebola arrive. Mais moi, ce que je trouve très encourageant, c'est que ce soit pour l'Ebola ou le paludisme, c'est qu'aujourd'hui, le monde industriel, l'industrie pharmaceutique prennent tout ça au sérieux. Mmh. Avant, le paludisme, c'était des Noirs, hein, excusez-moi, mais c'était des Noirs qui mouraient en Afrique, on s'en fichait plus ou moins.
Disons clairement les choses, c'était ça.
Ça vaut pas la peine, ça ne vaut pas la peine d'investir là-dessus. Je pense que c'est la fondation Bill Gates, d'ailleurs, qui a mis beaucoup d'argent pour la recherche contre le paludisme. Il faut dire aussi que l'administration de George Bush aussi a fait la lutte contre le paludisme et d'autres maladies essentiellement africaines une priorité. C'est une des petites choses, de bonnes choses de l'administration de George W. Bush. Et puis on a eu cette histoire d'Ebola il y a quelques années et voilà que on les prend au sérieux. Donc cette espèce de racisme qui ne disait pas son nom, maintenant on se dit non, ce sont des êtres humains, il faut trouver une solution et voilà.
Et voilà, on y a. En tout cas, il y a encore une maladie qui rôde. Ça a l'air peut-être de moins en moins. Problème de gouvernance, donc. Oui, la panne démocratique.
On n'a pas trouvé le vaccin, là.
On n'a pas trouvé le vaccin. Ouais, mais globalement, avant qu'on s'intéresse à certains cas particuliers, globalement, ça va mieux quand même ou pas?
Je ne crois pas. Non, non, moi je sais que je suis un peu isolé dans cette analyse-là. Si vous voulez, très simplement, il ne faut pas confondre l'adoption de simulacres démocratiques avec l'instauration d'une démocratie authentique. Et ce que je perçois, à tort ou à raison, c'est une tension de plus en plus intenable entre des sociétés civiles, si brouillonnes soient-elles, qui ont une aspiration, je dirais, globalisée et mondiale à ce que mon bulletin de vote compte pour ce qu'il est, et des régimes qui, au prix de fraude, de trucage ou de la violence organisée, écoutez, l'exemple du Gabon, on est quand même 3 mois après ce qui a été une fraude manifeste et grossière, et en dépit des rapports d'ailleurs excellents de la mission d'observation de l'Union européenne, on sent bien qu'on est entré dans une phase de normalisation.
D'acceptation.
Là, j'ai publié il y a peu de temps sur le site de l'Express un papier sur ce thème que j'ai titré « Une dérobade bien de chez nous ». Parce que, voilà, on préfère la sacro-sainte stabilité alors qu'on ne se rend pas compte que après le « lui » ou le « chaos », c'est le « lui » et le « chaos ». Qui se profile.
Vous, appréciation, Edouard Ocuet.
Oui, je suis d'accord avec Vincent. C'est à la mode de dire aujourd'hui que ça va beaucoup mieux en Afrique. Il y a beaucoup de pays qui se démocratisent, etc. Ce qui change en Afrique, c'est la société civile. C'est l'internet, c'est les téléphones mobiles, c'est les jeunes. C'est ça qui change. Mais le système politique, dans plusieurs pays, il est aussi corrompu que jamais.
Avec de bons contre-exemples.
Oui.
Dont le Ghana.
On va en parler, Alors justement, tiens, alors le mauvais exemple de la semaine, la RDC. La RDC, le plus vaste pays africain, il y a 85 millions d'habitants en RDC, dirigé depuis 2001 par Joseph Kabila, fils de son père, Laurent Désiré Kabila, qui était resté au pouvoir 4 ans avant d'être assassiné. Joseph Kabila, il devait terminer son mandat lundi dernier, lundi soir, son second et dernier mandat théorique, Et voilà, faute de scrutin présidentiel qui n'a pu être organisé, faute d'une transition démocratique qui n'a pu être finalisée, il est toujours là. Résultat, des troubles meurtriers tout au long de la semaine avec des dizaines de morts dans les grandes villes de RDC. Et là-dessus, eh bien, la conférence des évêques est intervenue et a appelé au calme.
La Synco n'est pas disposée à des prolongements induits.
Alors ce que dit Monseigneur Marcel Outambi, qui est président de la conférence des évêques, la Synco n'est pas disposée à des prolongements induits, à des manœuvres politiques dilatoires. Notre souhait est de clôturer avant Noël, avant donc ce week-end. Réponse de Monsieur André-Alain Atundu, porte-parole de la majorité présidentielle.
Dès lors que la Cour constitutionnelle a dit que après le 19, le président en fonction reste jusqu'à la proclamation du nouveau président, eh bien, c'est ça qui s'applique.
Ouais, bon, très bien. Alors, pourquoi il s'accroche au pouvoir, Vincent Hugeux? Comment est-ce qu'il est resté comme ça, au-delà de son mandat? Pourquoi il s'est bloqué, là, il n'y a rien?
Bien, il a précisément organisé la désorganisation qui est devenue le prétexte à la non-tenue à l'échéance de la consultation électorale présidentielle. Alors, il y a deux explications. D'abord, il y a l'attrait du pouvoir lui-même. C'est un homme jeune qui, effectivement, quand il débarque de manière tout à fait impromptue au lendemain de l'assassinat de son père, et celui qu'on appelle...
Il a à peine 50 ans, je crois, c'est ça.
Il en a 44 aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Oui, voilà. C'est ça.
Bon. Donc, il suscite une certaine forme de mansuétude dans les chancellerie occidentale, où on dit, par exemple, c'était le cas dans l'entourage de Jacques Chirac à Paris, il faut prendre soin du petit Joe. Oui, mais le petit Joe a grandi, mais hélas, pas en bien. Et il s'est entouré d'une clique, notamment de Katangais, qui aujourd'hui confisque le pouvoir. Mais au-delà de l'attrait, encore une fois, du magistère exercé sur ce pays continent, ce scandale géologique, comme on le dit, puisque... deux tiers des Congolais Kinshasa ont moins de 25 ans et que 90% d'entre eux vivent avec l'équivalent d'un euro par jour.
Alors qu'il y a des mines de cuivre, de diamants...
Et j'y viens. L'autre facteur, c'est évidemment qu'il y a une enquête formidable qui a été conduite pendant plus d'un an par l'agence Bloomberg et qui montre à quel point le réseau d'entreprises, de sociétés, notamment minières, avec les concessions, etc., a été confisqué par l'entourage à la fois politique et familial de Joseph Kabila. Vous savez, quand des despotes, élus ou pas, bien élus ou pas, s'accrochent au pouvoir, il y a toujours une des clés, c'est l'entourage. C'est-à-dire que même si lui, au bénéfice d'une impunité immorale mais politiquement nécessaire, était à l'abri dans je ne sais quel paradis exotique ou pas, il y a autour de lui, et ça a été le cas dans des tas de pays subsahariens, tout un entourage à la fois familial et politique, vous en disant, attention, parce que lui peut s'en sortir. Eux ont tout à perdre. Que ce soit des militaires, des hommes d'affaires, des ministres.
Ça a été le cas justement d'Omar Bongo. Parce qu'il paraît que les États-Unis, l'ambassadrice américaine est allée les voir. Elle a dit, on vous donne, vous pouvez partir, vous pouvez sortir. Même, ils ont dit, avec beaucoup, beaucoup d'argent. Et Bongo a dit non, essentiellement.
Vous parlez du père, là. Vous parlez d'Omar, le père, hein, pas Ali.
Non.
Alors Ali.
Oui, à la dernière élection.
Oui, Ali
Bongo, il a dit non parce que son entourage n'avait pas cette garantie de pouvoir s'en sortir, s'échapper. Mais il y a une troisième raison à ce qu'il dit Vincent, à mon avis, à ce qui concerne Kabila, c'est qu'il a vraiment très peur de la justice internationale aussi. Et il y a de bons exemples. Donc, il paraît qu'il s'accroche aussi parce que c'est un homme qui vit avec la peur. Après tout, son père a été assassiné dans son bureau.
Le poids de l'Église, là, on a entendu un évêque, là.
C'est une tradition.
Déterminant, justement, pour trouver un processus, un accord, parce qu'un accord qui est en passe d'être conclu. Hein.
Vous savez, nous, on est dans une culture où on est très attentif à distinguer le temporel du spirituel. Mais quand vous regardez la période, par exemple, assez pagailleuse mais féconde de ce qu'on appelait les conférences nationales en Afrique début des années 90, c'est-à-dire la fin du multipartisme obligatoire et universel, vous avez très souvent des évêques qui jouent un rôle clé parce que ils sont perçus comme des acteurs non partisans. Et là, c'est vrai que l'incidence de la CENCO, donc la Conférence Épiscopale Nationale du Congo, a été sans doute cardinale, si j'ose dire, dans ce dénouement dont on verra les modalités.
Bien, avec normalement une élection prévue fin 2017 au lieu de 2018. Alors, on parle de la RDC, la Gambie aussi, blocage. Alors, la Gambie, vous ne connaissez peut-être pas, c'est un tout petit pays assez pauvre, hein, qui est complètement enclavé dans le Sénégal. C'est un pays de 2 millions d'habitants, hein, cette fois. Son président, Yahya Jammeh, il est au pouvoir depuis 22 ans. Il a été battu début décembre à l'élection présidentielle. Il refuse de céder son siège. Hein. Il est depuis sous pression. Alors, les États ouest-africains de la CDAO, hein, d'ailleurs, il y a Macky Sall, le président du grand pays voisin, le Sénégal, qui était en visite officielle à Paris. Et d'ailleurs, François Hollande, il a pris la parole lui-même depuis l'Élysée sur le cas de la Gambie.
Une élection a eu lieu en Gambie. Ses résultats ne sont pas contestables. Et le président élu doit donc être installé le plus vite possible. Et il ne peut pas y avoir de doute sur cette réalité.
Bon, ça se termine comment, Edouard Okué?
Mais c'est-à-dire que c'est une histoire tout à fait incroyable. Quand il a dit à Jammeh, il a dit « j'ai perdu l'élection ».
Hein, oui, parce que dans un premier temps, il avait reconnu sa défaite.
Oui, il a reconnu à la télévision.
Ouais. Il a félicité.
Il a félicité à Barrot, exactement. Et puis, tout le monde s'est dit, mais c'est pas possible, ça, parce que c'est un État tout à fait autocratique. Peut-être, il est un tournant pour la drogue aussi, toutes sortes de trafics, etc.
Tellement faible qu'en effet, les trafiquants passent par la Gambie, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de gendarmes.
Et puis, une semaine plus tard, je pense, il dit, mais j'accepte pas ça. Alors, on dit que c'est par pression de l'armée, que c'est l'armée qui n'était pas content. Mais il faut dire que l'opposition a commis une grave erreur, c'est que juste après la victoire, ils ont dit qu'on allait mener beaucoup de cadres du gouvernement devant la justice. Et paraît que ça n'a. C'est la goutte qui a fait déborder la vase.
Ça se termine comment, Vincent? Il y a une intervention militaire qui va déloger soit les militaires sénégalais, soit les troupes de la CDAO.
C'est la menace que brandit donc la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui s'est réunie à la fin de la semaine avec effectivement cette hypothèse. Et ce serait d'ailleurs au Sénégal. Parce que n'oublions pas que le Sénégal et la Gambie, de manière très éphémère, ont été unis dans une fédération sénégambienne il y a une vingtaine d'années.
À peu près,
oui. Mais très honnêtement, je pense que ces pressions conjuguées ont pour vocation de faire céder Jammeh. J'imagine assez mal que des troupes déboulent comme ça, parce qu'on sait très bien que dans ce cas, le pouvoir en place invoquera la souveraineté nationale, etc. Et on retombe sur le dilemme moral que Eduardo évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire entre l'impunité et la stabilité, il y a parfois des choix cornéliens à faire, avec l'effet pervers d'une Cour pénale internationale qui, effectivement, tend à convaincre certains despotes qu'il vaut mieux s'accrocher que de renoncer.
Bon, tout n'est pas mauvais. Hein.
Non.
Il y a du mieux, pas. Le Ghana, avec le scrutin du 7 décembre, hein, tout s'est bien passé. Le président Mahama a reconnu sa défaite au profit de M. Akufo-Addo. Tout va bien.
Oui, en ce sens qu'une démocratisation n'est valide que si on a un ticket aller-retour. Il ne suffit pas qu'il y ait une alternance tranquille et apaisée. Et là, le Ghana est un exemple. Il y en a d'autres. Le Sénégal, le Botswana, oui, etc.
Makissal, bien sûr,
hein. Sans parler de l'île Maurice, qui subit des pressions géopolitiques sans doute moindres, mais qui prouve que cette idée, qui d'ailleurs circulait beaucoup dans la France chiracienne, sur laquelle, je cite, l'Afrique n'est pas mûre pour la démocratie, une idée d'ailleurs que partageait un Félix Houphouët-Boigny, le patriarche de l'indépendance ivoirienne et ancien élu de la République française, que cette idée est inepte, tout simplement. Donc oui, c'est la troisième fois qu'il se présentait et il a été élu, la victoire a été reconnue et ça prouve que c'est tout à fait jouable.
À suivre, 7 jours dans le monde, dans un instant, Donald Trump intronisé par les grands électeurs et la tension qui monte avec la Chine.
BFM Business, 7 jours dans le monde.
Vive le vent, d'hiver. Celui qui me glace le sang lorsque je dors par terre.
On ne vit pas tous le même Noël. Mais on peut tous aider ceux qui sont dans la rue en faisant un don sur armeedusalut.fr.
Toute l'actualité économique, c'est aussi gratuitement à la télé. BFM Business Télévision, sur les box, le câble, le satellite et en Ile-de-France, en haute définition, sur la TNT. BFM Business Télévision, l'écho gratuitement en images. Chez SFR sur le canal 68, chez Free sur le canal 80, chez Orange sur le canal 104, chez Bouygues Télécom sur le canal 153. BFM Business Télévision, chez Numéricable sur le canal 59. Partout en France, retrouvez BFM Business Télévision sur le satellite, sur le canal 107 de CanalSat, chez TNTSat et le canal 51 de FranceSat. Retrouvez toute l'information économique en haute définition sur le canal 30 de la TNT francilienne. Toute l'écho gratuitement en images, c'est sur BFM Business Télévision.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Pendant encore quelques minutes avec Vincent Hugeux, grand reporter à l'Express, et le journaliste américain Eduardo Cué. Eduardo, c'est fait, hein, même si le résultat sera proclamé officiellement dans la première semaine de janvier. Les grands électeurs, ils ont voté lundi, ils ont validé le choix des Américains, à savoir Donald Trump. J'ai l'impression, ça fait quoi, un mois et demi hein, qu'il a été élu le 8 novembre, j'ai l'impression qu'il a été élu maintenant il y a 8 ans à peu près, et qu'Obama finalement... complètement disparu. C'est quoi? C'est parce qu'on parle de Trump tous les jours ou il aime bien faire parler de lui tous les jours aussi, hein?
Non, mais c'est normal à chaque alternance, c'est un peu normal. Rappelez-vous, il y a 8 ans, c'était un peu pareil avec Bush
bien
et
sûr.
Obama.
Oui.
Donc, parce qu'il y a beaucoup d'annonces à faire, des annonces quand même à des nominations très importantes, tous les cabinets, les secrétaires d'État, la défense, etc., les trésors. Et donc, tous les jours, ou presque, il y a des annonces, les conseillers à la Maison-Blanche, ça fait que
c'est atypique, quand même. C'est
atypique parce que
le cru 2016, il est différent quand même.
Tout est atypique avec Donald Trump. Tout, absolument tout. Et le monde.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, allez, sur ce mois et demi, vous qui en avez couvert, je vais pas dire des dizaines, des campagnes, mais tout comme.
Ce qui m'a le plus surpris depuis le 8 novembre, c'est sans doute le fait qu'il fait ce qu'il dit. À ce qui concerne les nominations, c'est clair, que ce soit pour les ministres de la Justice, que ce soit pour la Défense, etc.,
les secrétaires
d'État,
bien sûr,
tout ça. Et puis l'autre chose qui a beaucoup surpris, c'est ce fameux coup de fil avec Taïwan.
Ah bah ça, on va y revenir, parce que là, il y a des tensions avec la Chine. Je le disais, ça fait un mois maintenant qu'il peaufine son équipe, il continue d'étonner. Les dernières en date cette semaine, alors, il y a le milliardaire Carl Icahn, célèbre investisseur, hein, vraiment un gourou de Wall Street, figure de Wall Street, nommé comme conseiller spécial sur la réforme de la régulation. Bon. Et puis l'économiste Peter Navarro, qui va prendre la tête d'un conseil national du commerce pour aider Donald Trump à renégocier les traités internationaux. Navarro, il est l'auteur de nombreux articles ou livres, hein, sur le rôle de la Chine dans le déclin américain. Voilà, il accuse clairement la Chine. Et à Pékin, maintenant, depuis quelques jours, hein, la presse, les milieux économiques craignent clairement une guerre commerciale. Oui, depuis que Trump a été élu, C'est la Chine qui est en ligne de mire?
Oui, Navarro, il a fait carrière contre la Chine, hein. Ouais. C'est clair.
C'est quoi, c'est une provoque de la part de Trump?
Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de provocations là-dedans. Je pense que ça fait partie de sa stratégie. Ce coup de fil, par exemple, avec Taïwan, pour moi, je l'interprète en disant à la Chine, écoutez, vous, c'est fini maintenant le jeu. Hein, ça ne serait pas comme avant. Et c'est pour ça que la Chine a réagi.
La fin de la politique de la Chine unique.
Hein. Voilà. Vous faites n'importe quoi dans la mer de Chine.
Du sud, ouais.
Etc. Vous manipulez
votre monnaie. Vous réarmez des îlots, vous mettez des pistes d'aviation, vous mettez des ports.
Voilà.
Vous challengez un peu les Philippines, le Vietnam,
vous
le
manipulez
Japon, voilà.
La monnaie, voilà. Vous faites ceci, voilà. Vous faites cela. Et maintenant, moi, j'arrive et tout est à refaire. Mmh. Hein. On ne va pas jouer comme avant. C'est vraiment un avertissement. Mais les Chinois ont été tellement surpris qu'au début, ils n'ont pas réagi vraiment. Hein. Et c'est que maintenant qu'ils commencent à réagir.
Et d'ailleurs, le week-end dernier, ils sont un petit peu énervés. Hein, les Chinois, lorsque leurs forces navales ont confisqué donc un drone sous-marin. Alors officiellement, c'était un drone envoyé par un navire océanographique pour mesurer la salinité de l'eau, la température de l'eau.
Oui,
enfin, il a quand même été réclamé par le Pentagone directement, quoi. Donc,
il
y avait.
C'est clair qu'il y a autre chose.
Roche, comme
c'est
on
clair
dit.
Qu'il y a autre chose. Mais je pense que c'est ça la marque de fabrique de la politique étrangère de Donald Trump, c'est qu'on n'essaie pas. Et donc, les gens sont déstabilisés, les pays sont déstabilisés. Et puis, on verra bien. Et à mon avis, ça lui donne un certain avantage. Maintenant, dans les faits, dans la réalité, les faits, c'est que la Chine détient beaucoup de la dette américaine, par exemple. Donc, ça sera beaucoup plus difficile. Mais pour le moment, il me semble qu'il mène le jeu.
Bon, Vincent Hugeux de l'Express.
Moi, je pense qu'il serait plus que temps qu'un conseiller écouté de Donald Trump, pourvu que l'on en trouve à un, lui glisse dans le tuyau de l'oreille que la campagne est terminée. Que les postures de Matamor, c'est très bien quand il s'agit de remporter une élection, quitte à la perdre d'ailleurs par 2,8 millions de voix, mais c'est ainsi dans le système américain, et que la gestion d'un pays et de ses rapports avec le reste du monde ne peut pas se faire à coup de tweets en 140 signes, ni à coup de provocation. Moi, je sais bien qu'il y a aujourd'hui une tendance assez dominante, consistant à dire « mais ne le jugeons pas, regardez Reagan, regardez Nixon, etc. » Je persiste à penser, jusqu'à la preuve du contraire, que cet homme est dangereux dans le monde qui est le nôtre, dans les impératifs géopolitiques au Moyen-Orient, dans les rapports avec l'Asie, etc. Et que toutes ces nominations, qui effectivement à quelques nuances près confirment le maximalisme de sa posture, conduisent les États-Unis à être moins une démocratie qu'une ploutocratie et à valider l'idée qui, à mon avis, est une ineptie collection sur laquelle on peut diriger un État, surtout celui-là, comme une entreprise. Eh bien non, on ne dirige pas les États-Unis comme on dirige une société privée.
Juste, puisque vous parliez de posture de Matamor, un mot encore avant de nous quitter pour 2016, mais on reviendra en 2017. Vladimir Poutine, jeudi matin, qui annonçait qu'il allait renforcer le potentiel militaire nucléaire, inquiet du déploiement que les États-Unis pourraient faire de son bouclier antimissile dans l'Est de l'Europe, hein, en Pologne, en Roumanie. Réplique de Donald Trump, quelques heures après, hein, les Américains doivent accroître leur capacité nucléaire. Vers quoi ça va aboutir cette histoire? Eduardo Cué, Vincent Hugeux.
Ben moi, ça me rappelle un peu Ronald Reagan, hein, a fait un peu la même chose avec l'ancienne
URSS.
Union soviétique. Hein. Je suis d'accord avec Vincent qu'il y a du danger. On va entrer dans une période de turbulence, c'est clair. On verra la suite, mais pour l'instant, j'insiste, je trouve qu'il déstabilise et que donc qu'il contrairement à Obama, il dit nous sommes là, il faut compter sur les États-Unis, on va riposter coup par coup.
Il peut y avoir une escalade nucléaire entre les deux, Vincent Hugeux.
Précisément, je ne le crois pas. Et ce qui le pose aujourd'hui en interlocuteur, cette sorte de coup d'éclat permanent, peut le fragiliser demain. Parce que, évidemment, mais on pourrait revenir aussi sur le mur payé par les Mexicains.
Ouais, hein,
là aussi, il y a eu rétropédalage. Il ne pourra pas tenir, en termes d'action politique et militaire, à la hauteur de son credo. Donc, je veux dire, c'est peut-être très bien aujourd'hui pour l'installer. Il occupe le paysage, c'est clair. Mais est-ce qu'il est en train, en quelque sorte, de bédonner sa crédibilité d'homme d'État? Non, je ne le crois pas.
Oui.
Le crois
la question, pas. C'est est-ce qu'on peut les contrôler? Est-ce que quelqu'un peut contrôler Donald Trump?
Le simple fait qu'on se pose cette question est quand même préoccupant.
Très, très préoccupant, je suis bien d'accord.
Bon.
La réponse est non pour le moment.
Bon, ça nous fera évidemment beaucoup de sujets, évidemment, pour 2017. Merci, merci Vincent Hugeux. Je rappelle, donc Vincent Hugeux, grand reporter à l'Express, auteur de Reine d'Afrique, le roman vrai des Premières Dames. Vous savez, cette idée originale, hein, voilà, des portraits des First Lady africaines. C'est un livre de poche, hein, ça coûte pas cher, un bon petit cadeau, voilà, un peu de prix. Mais c'est bien, c'est très riche d'enseignements à l'intérieur. Et puis, Eduardo Cué, donc, avec nous, chroniqueur international. Très bonne fête à tous. 7 jours dans le monde reviendra maintenant en 2017.
BFM Business, 7 jours dans le monde.